moyen de bloquer une avancée sociale, reste la fausse adhésion au projet pour mieux le bloquer.
L'animation socioculturelle à Marseille a vu bon nombre de ses centres sociaux et maisons pour tous disparaître ces dernières années. Ces fermetures, comme celle du château de Servières par exemple, sont une partie du malaise que traverse aujourd'hui, et ce n'est pas qu'à Marseille, le milieu de l'éducation socioculturelle. Car aujourd'hui, si beaucoup de centres sociaux ont été réduits au silence, murés, contraints à la fermeture, beaucoup d'autres ont changé de gestionnaire et sont passés d'un mode de gestion associatif à une gestion par des fédérations telles que l'IFAC, Léo Lagrange ou encore, par exemple, le CCO, les Centres de Culture Ouvrière. Alors, nous allons aller à la rencontre de plusieurs directeurs ou anciens directeurs de centres sociaux à Marseille pour les entendre nous parler de l'impact de ces différents modes de gestion sur leurs pratiques et sur le glissement d'une logique de projet vers une logique de délégation de services publics et vers des modes de gestion identiques aux entreprises marchandes.
1. L'importance que l'on attache à l'éthique de la fin et des moyens est inversement proportionnelle aux intérêts que nous avons dans l'affaire, voire également la distance qui nous sépare du lieu du conflit.
Responsables devant ce qui se passe, il faudrait qu'ils se disent, ça peut commencer par
qualité, justice pour tout le peuple du monde, partage équitable toutes les richesses.
Et tout ça ne se par la lutte.
J'aimerais monter les uns contre les autres, mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le point levé, jeunesse et peuple du tiers-monde. Nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête, on est bataille, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille.
Résistance.
On a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous baiser.
Contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs ajoutent la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos.
Résistance,
à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes.
Résistance,
à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes.
Résistance,
à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes.
Kenny Arcana avec Jeunesse du Monde. Ossine Ben Saïd est directeur du centre social de Septem-les-Vallons. Il est aussi le fondateur d'Animateurs sans frontières. Son expérience depuis plus de 10 ans et sa réflexion sur le métier d'animateur socioculturel en font un témoin idéal pour nous décrire le paysage. Notons que le centre social de Septem-les-Vallons est géré par une association de quartier. Ossine Ben Saïd.
Au niveau des centres sociaux, j'ai un souvenir où, par exemple, on avait une ancienne fédération des centres sociaux, et dans le secteur nord était composé des centres sociaux du 15e, 16e arrondissement, ceux de Septem et ceux des Pennes-Mirabeau. Et on était 16. 16 gérés par des associations locales, principalement par des associations d'habitants. Aujourd'hui, dans ce même territoire, 15, 16e, et 15, 16e, Septem et les Pennes, je pense qu'on doit être 6. On est passé de 16 à 6, et c'est une partie qui a disparu purement et simplement. Je fais allusion à celui de la Morlette, je fais allusion à celui de Bassens, je fais allusion à... qui ont disparu, fermés, qui ne reviendront plus, hein, celui du Castellas. Mais après, sans compter ceux qui ont changé de gestionnaire, je fais allusion à la Solidarité, qui est maintenant gérée par la fédération des AIL. Je fais allusion aussi qui ont changé de gestionnaire, comme celui de la Savine, qui est géré par exemple par la fédération du CCO. Donc Aujourd'hui, on s'aperçoit, et ça c'est plutôt une politique menée par la ville de Marseille, c'est que chaque fois qu'il y a un centre social géré par une association locale qui ferme, la réouverture est donnée et concédée à une fédération d'éducation populaire. L'idée est pour la ville de Marseille d'avoir des structures fédérées, mais surtout gestion centralisée, avec un unique interlocuteur, ainsi de suite. Donc la ville de Marseille, faciliter le discours ou le contact avec les centres sociaux, naturellement, elle crée les conditions pour que maintenant les structures gérées par des fédérations d'éducation populaire gèrent toujours les services, mais sont de moins en moins au service de la population. Derrière cette affirmation, je le vois comme étant aujourd'hui le type de relation que nous avons. C'est encore un débat qui est beaucoup plus sur notre posture à avoir. Avant, ça fait 10-15 ans, il fallait un savant équilibre entre répondre à la demande publique et la demande du public. Là, aujourd'hui, on répond à la demande publique. La demande du public est beaucoup plus noyée et moins importante, parce qu'aujourd'hui, on rentre sur des dispositifs, des programmes et des appels d'offres. Donc, dans tous les cas de figure, on voit même, nous-mêmes, dans nos budgets, il faut vérifier, hein, mais je pense que plus de 60 à 70% de notre budget provient de l'appel d'offres ou...
Bien défini,
on dira des VVV, mais c'est un appel d'offres. On dira c'est le DSU à Marseille, mais c'est l'appel d'offres. Et si, quand on dit appel d'offres, c'est concurrentiel. C'est pas moi qui le dis, c'est le système capitaliste et libéral, il est comme ça.
2. La façon de juger la moralité des moyens varie selon les positions politiques. 2. Ceux qui se posent en juge.
Une étude de l'Union des centres sociaux faisait apparaître que dans nos structures, au niveau de la masse salariale, hein, on était à plus de 60-70% de contrats aidés dans nos salariés. Donc comment, avec des contrats aidés, donc qui veut dire qu'il faut certains critères pour pouvoir émarger à ces emplois, comment on doit changer le monde avec tout ça? Mais finalement, on ne demande pas de changer le monde. Pendant longtemps, je pensais, on ne demande pas de changer le monde. On nous demande de gérer. Et quand je dis gérer, c'est... on nous donne royalement 500 euros pour mettre en place des activités pendant les vacances de la Toussaint, à direction des ados. Mais si on n'a pas assez, on dirait en fait, avec ce qu'on nous donne. On ne demande pas de faire mieux que... On sait qu'aujourd'hui, les moyens sont limités, mais on n'a pas de pression de la part des décideurs. On crée les conditions pour que tout soit équilibré à la fin de l'année, que les dépenses soient payées, mais en aucun cas on a des obligations aujourd'hui de résultat. On n'a pas d'obligation de résultat aujourd'hui. Hein. Par contre, moi, j'émets des réserves quant à tout ce beau discours, parce que force est de reconnaître qu'on a des obligations de résultat. Et derrière l'obligation de résultat, on le voit avec l'érosion et surtout l'espérance de vie des centres sociaux. Ou en gros, forcer de reconnaître, par exemple sur le même secteur, on était 16, aujourd'hui on est 6 sur une même fédération, maintenant il y en a 3-4 qui sont repartis, donc, mais finalement 16 moins 10 plus 4, ça fait jamais 16, ça fait 10. Dans tous les cas de figure, on s'aperçoit qu'il y a une certaine, entre guillemets, concurrence qui se fait, mais il n'y a pas de concurrence. C'est en gros le centre social le mieux préparé à cette transformation pourra rester. Les autres vont disparaître. Que ce soit le sport, la culture et j'en passe, pour nous ce sont des outils, hein, dans tous les cas de figure, et ce sont des leviers. Mais le travail social demeure. Hein. Nous, il est important de faire du foot pour vérifier et les problèmes de nutrition pour certains, pour régler une vie sociale pour d'autres, pour permettre le dialogue entre les enfants et les parents, ça c'est ça, la question est entière. Hein. Cependant aussi on a une marge de, on a une ligne directrice importante. On travaille exclusivement sur l'action collective. Et on ne peut pas faire un développement harmonieux si on n'est pas dans une logique collective. Aujourd'hui, je fais allusion à l'IFAC ou d'autres, hein, on est beaucoup plus dans une offre de services qui est surtout liée à une centrale d'activité où individuellement on vient s'inscrire. Je veux faire de la samba, je veux faire de ci, je veux faire de ça, ainsi de suite. Hein, donc, mais après, c'est lié au projet de l'individu.
D'accord.
Mais qui, hormis l'utilisation de l'atelier samba par exemple, n'est pas lié au projet du centre social ou de la structure d'accueil. Un gamin, naturellement ici, un gamin qui vient participer à une activité, on ne le voit plus, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il navigue dans toutes les petites activités ou initiatives que propose le centre social.
C'est ma définition du mot fierté en français. Tu vois bien que j'ai raison ici de l'employer. Pas de malentendu entre nous, tu le sais. 36 000 communes environ dans le pays. Et l'histoire de chacune, c'est mon histoire aussi. C'est la volonté de tous qui fait que l'on est réunis. Mais en tant que Marseillais, je reviens donner mon avis. Tu le vois, cousin, je te dis mon bled. Moi, je suis fier de mon bled. Oui, c'est dans ma cité que depuis longtemps je voulais que j'ai dit mon bled.
C'était papetj.com avec mon bled.
Et qu'est-ce qui fait qu'un centre social associatif ferme et est remis en DSP1? C'est juste qu'il y a un contrat avec la ville qui se termine et on décide de fonctionner d'une autre manière.
Pardon. Je pense que c'est surtout, du moins au niveau de la ville de Marseille, c'est un type de conception de la gestion des centres sociaux. Parce que dans tous les cas de figure, pour beaucoup, les centres sociaux gérés par les habitants, ça ne marche pas, c'est lié à la fluctuation sociale du quartier, c'est difficile à gérer, ainsi de suite. Donc on fait appel à un tiers, quoi, hein, non identifié, non connu sur le territoire, pour développer le service. Et derrière, développer le service qui soit au service du décideur. Voilà.
D'accord.
On est dans ce cas de figure. Hein. Après, on est au niveau de la répartition sur les modifications de DSP. On peut s'apercevoir que le Nord est confié, donc les fédérations qui gèrent les structures du Nord, hein. C'est principalement Léo Lagrange, la Fédération des AIL et le CCO. Avec ces dernières années, une attention plus que particulière pour la Fédération des AIL et le CCO. Et Léo Lagrange, bien au contraire, reste sur des sites qui sont tenus historiquement par la Fédération Léo Lagrange. Par contre, tout le reste de la ville, hein, tout le sud et l'est, est confié à la fermeture, est confié à l'IFAC. Hein. L'IFAC, c'est une réponse un peu plus équilibrée de la droite, qui a voulu créer son opérateur. Son opérateur, dans un premier temps, pour gérer des centres de loisirs et former des animateurs, principalement dans un premier temps dans les Hauts-de-Seine et à Issy-les-Moulineaux en particulier, avec André Santini et Charles Pasqua, président du département. Hein. Et l'IFAC a eu un écho ici dans notre département, surtout par la présence de M. Roland Blum, qui lui était chargé du dossier d'action sociale, des centres sociaux, et j'en passe. Et comme on a décidé de travailler à Marseille sur la gestion centralisée, on a permis à un des opérateurs du Serail de pouvoir émarger aux appels d'offres. Hein.
D'accord.
En le préservant dans un premier temps, en le préservant, surtout dans des territoires où les explosions urbaines ne pouvaient pas, où il y avait très peu de chances de voir le jour. Voilà.
3. En temps de guerre, la fin justifie n'importe quel moyen. Les accords de Genève ne sont respectés que parce que l'ennemi ou ses alliés peuvent avoir recours à des représailles.
Malik Bengali, alors jusqu'à décembre 2006, vous étiez directeur du centre social Cours Julien, qui est sous la gestion de l'IFAC, l'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil. C'est une structure qui a aujourd'hui à Marseille, sous son aile, 12 centres. Avec vous, Malik, nous allons parler un peu du mode de gestion de cet organisme, puisque vous avez aussi travaillé à Évry dans des centres sociaux gérés par d'autres centres de gestion, comme Léo Lagrange, la branche socialiste de animation socioculturelle. Donc on va voir, on va pouvoir comparer un peu les différents modes de gestion dans lesquels vous avez travaillé jusqu'à début décembre 2006. Puisqu'ils se sont séparés de vous. Bonjour. D'accord. Malik.
Bonjour. Donc moi, je suis arrivé en février 97 à Évry, salarié donc de la fédération Léo Lagrange. Et j'ai travaillé pour eux pendant presque 10 ans, puisque j'ai travaillé jusqu'au avril 2000 à Évry, et date à laquelle je suis venu à Marseille au centre Julien. Et donc de 2000 jusqu'à fin 2005, j'ai travaillé pour Léo Lagrange comme directeur du centre Julien. Et suite à l'appel d'offres, puisque la gestion du centre Julien se fait par appel d'offres, comme d'autres centres à Marseille, le délégataire a changé et la ville de Marseille, qui est propriétaire des murs, a décidé d'attribuer la gestion du centre à l'association IFAC Provence, qui gère un certain nombre de centres à Marseille, entre autres. Donc, moi, j'ai connu surtout Léo Lagrange et j'ai connu un petit peu l'IFAC. Et ces deux associations sont assez proches, notamment par ce qu'on pourrait appeler leur dimension politique, dans le sens où elles sont la construction directe de partis. C'est-à-dire que Léo Lagrange a été créé en 1950 par Pierre Mauroy. Aujourd'hui, au niveau national, elle est présidée par Bruno Leroux, qui est secrétaire national aux élections du Parti socialiste. Beaucoup de membres des conseils d'administration de Léo Lagrange, puisque la structure est très, très organisée au niveau national, puis au niveau régional. Donc ça fait plein d'associations distinctes qui ont chacune leur conseil d'administration. Et dans chacun de ces conseils d'administration, on va retrouver des gens qui sont soit directement des mandats au Parti socialiste, soit en tant qu'élu, soit en tant que dans l'organisation du Parti socialiste, et des gens qui sont proches. À l'IFAC, ici, on a un président qui s'appelle Thierry Mariani, qui est député du Vaucluse, qui est maire de Valréas, donc qui appartient à l'UMP. Donc on a un peu deux structures. Donc ça, c'est vraiment une ressemblance qu'elles ont. Toutes les autres fédérations n'ont pas cette origine. Les CMA, les MJC sont par exemple issus d'autres origines. Mouvements populaires. Oui, tout à fait. Beaucoup sont nés à l'après-guerre. Il y avait beaucoup d'orphelins à ce moment-là. Il y a des mouvements. Les CMA sont nés d'une rencontre avec le scoutisme. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont nées plus sur le terrain. Aujourd'hui, moi, le constat que je fais après presque 10 années de travail dans le champ des fédérations, enfin en tout cas de celle de Léo Lagrange, c'est que le mouvement s'est arrêté, qu'on est dans l'inertie et que ce qui relevait de l'utopie de l'éducation populaire s'est transformé au fil des ans. On est passé finalement sur le secteur marchand. Et le poids politique s'est fait de plus en plus sentir, c'est-à-dire que la fédération et les actions qui sont menées sont utilisées soit pour capter des subventions, soit pour être une tribune des politiques et des élus qui viennent s'afficher. C'est des lieux où on rencontre les habitants. Et ça se fait au détriment du sens, du projet, des actions qui sont menées, alors que de plus en plus, on a des enjeux sociaux qui sont forts et sur lesquels on doit agir.
Pour se définir, l'IFAC, l'Institut de formation, d'animation et de conseil, qui a 12 centres sociaux sous sa gestion à Marseille, écrit « Nous œuvrons pour l'amélioration des services à la population en contribuant à l'accès aux loisirs, à l'aide aux personnes et au soutien des publics en difficulté, de la petite enfance au troisième âge. » On notera dans cet énoncé d'une façon très claire l'aspect gestionnaire et marchand de leur action.
quand les, c'était l'époque de fer, c'était l'âge d'or de Léo Lagrange. Ben aujourd'hui, et pour les mêmes raisons, hein, je veux dire, moi, je pense que c'est pas... je tire sur personne, je constate des situations et ce qu'elles produisent. Donc, parce que pour autant, des fois, le rapport aux politiques, il nous sert. Et effectivement, des fois, ça permet de dégager des moyens, ça permet un certain nombre de choses. Sauf que les règles de jeu, elles doivent être claires. Et que nous, en tout cas moi, dans ma pratique professionnelle, je revendique, cette qualité d'intervention, le sens, le pragmatisme, parce qu'il y a des enjeux. Et on voit bien que finalement, ça coûte tant d'un point de vue économique que symbolique, plus cher que d'en arriver à des logiques répressives, hein, parce que... peut que mesurer ce que coûtent des animateurs puisque coûtent des policiers. Hein. On verra que le statut d'animateur est souvent beaucoup plus précaire et beaucoup moins onéreux que celui des policiers. Et c'est pas pour dire que c'est mal d'un point de vue des policiers. Je trouve que c'est bien que les gens aient des statuts corrects et sécurisés pour exercer des missions qui sont souvent très difficiles d'un côté comme de l'autre. Parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec des services de police et je veux dire c'est facile pour personne dans ces affaires-là. Il y a des gens bien partout, il y a des gens aussi moins bien partout, comme dans l'animation aussi, il faut le dire. Mais dans tous les cas, il faut être sur la séparation des rôles, et à un moment, chacun son travail. Et le travail d'un mouvement d'éducation populaire, à un moment, c'est de porter auprès du politique que des fois, il y a des choses à remettre en cause. Voilà. Et ça peut plus se faire parce que la logique affinitaire, elle prend trop de place. On a pu voir quelque chose d'intéressant en septembre, puisque l'IFAC a décidé de décider une nouvelle politique tarifaire pour l'activité du centre Julien, notamment pour les centres de loisirs où elle a supprimé le quotient familial, et pour les activités sportives et artistiques où il y a eu des augmentations assez importantes, et surtout la suppression de toutes les réductions qui allaient vers les minima sociaux, les familles nombreuses, ou les gens qui payaient...
C'est-à-dire que selon le revenu, le prix des activités était...
Voilà, on avait une adaptation. On avait une adaptation. Voilà. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et donc l'IFAC a remis en cause ça. Et là, les adhérents ont réagi et ont dit bon, mais voilà, on a un problème, ça va pas. Surtout qu'on a un cahier des charges précis, qui est un cahier des charges juridique, hein, puisque la délégation de service public s'accompagne donc d'un texte qui est paraphé par l'élu de la ville de Marseille, qui est délégué aux affaires sociales, et le président de l'IFAC, comme pour tous ceux qui ont des délégations de service public. Et sur ce cahier des charges, il est précisé que la politique tarifaire doit être adaptée de manière à permettre l'accès à tous les habitants de la zone de vie sociale aux activités du centre. Ce qui nous amène à la conclusion suivante, c'est que la ville, qui a été aussi interpellée et qui n'a pas pu faire autrement que de constater le mouvement des adhérents, puisqu'il y a eu manifestation, il y a eu pétition, distribution de tracts...
Beaucoup d'adhérents ne pouvaient plus...
Voilà.
Ne pouvait plus payer ce prix d'adhésion.
Ce qui est tout à fait incroyable, parce que la ville, pour l'IFAC, quand elle a repris le centre Julien, a décidé d'augmenter la subvention annuelle qui s'accompagne, ce qui est la contrepartie hein, pour remplir le cahier des charges, de 70 000 euros. C'est-à-dire qu'on est passé d'un subventionnement qui était au moment de Léo Lagrange de 150 000 euros à 220 000. C'est le seul équipement à avoir doublé. La ville double sa subvention, signe un cahier des charges précis, et l'IFAC ne le respecte pas. Que fait la ville ? Rien. Est-ce que la ville aurait eu le même comportement si ça avait été un autre délégataire, si ça avait été le CCO, Léo Lagrange, les AIL ? J'en sais rien. En tout cas, elle donne des subventions et elle ne contrôle pas son utilisation.
Et la CAF qui donne un agrément, est-ce qu'elle a quelque chose à dire aussi là ?
Eh ben normalement, oui.
Elle ne dit rien non plus ?
Bah écoutez, il n'y a pas eu de réponse. Les adhérents ont écrit, hein, tant à la CAF qu'à la ville, pour alerter sur cette situation-là. Ils n'ont jamais eu de réponse écrite, ni de la ville, ni de la CAF.
Et alors vous, directeur de centre culturel, sur quoi vous fondez vos espoirs aujourd'hui ?
Ben, je pense sur des choses qui sont émergentes aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que de plus en plus, et dans le champ de l'économie sociale et solidaire, émergent d'autres formes d'action. C'est pas anecdotique, mais par exemple, ATTAC, même si aujourd'hui c'est passé plein de choses qui font que ATTAC, maintenant, c'est une représentation un peu problématique, mais je trouve que c'était quelque part, c'était de l'éducation populaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'était sur les enjeux économiques, où on a toujours soigné l'ignorance des gens pour ce que les hauts dirigeants fassent ce qu'ils avaient à faire en disant, voilà, les choses sont incompréhensibles. sensible au commun des mortels. Et donc, à partir de là, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon. Voilà ce qu'on a à faire. Bon, Attac a dit, bah voilà, nous, on pense que l'économique, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut savoir faire. Et ils ont été dans cette logique de transmission. Et ça, je trouve que c'est une démarche très intéressante. Après, bon, Attac a connu les problèmes qu'ils ont connus, mais ça n'empêchera pas qu'ils puissent peut-être rebondir, mais en tout cas qu'il y ait d'autres mouvements qui se développent de cette manière-là. Je crois que c'est vraiment la démarche. Moi,
L'Université populaire de Michel Onfray.
Voilà,
aussi,
tout à fait, voilà. Et dans cette démarche de transmission, de la connaissance, du savoir. Et moi, je trouve... moi, je sais qu'un mec comme Castoriadis disait, le problème dans nos démocraties, c'est qu'on ne cherche pas assez à associer les gens à la responsabilité. Voilà. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Et Léo Lagrange, pour moi, c'était le stéréotype de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre démocratie, c'est-à-dire qu'ils se plaignaient régulièrement de ne pas avoir de militants. Et quand ils en avaient, ben, ça les emmerdait, parce qu'un militant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, et qui ne réfléchit pas forcément là où eux voudraient qu'ils réfléchissent. C'est comme un peu la démocratie participative. Bien que les gens participent, mais là où on a envie qu'ils participent. Or, ben, un individu, c'est libre, c'est un cerveau, ça fonctionne, et voilà. Et il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, mais qu'on peut être aussi dans des rapports de co-construction, de coproduction. Et je crois que c'est là-dessus, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive, ce qui me donne envie de continuer à travailler. Moi, c'est mon fil conducteur. Alors, je pense que ça sera moins dans les centres sociaux aujourd'hui, parce que j'aspire aussi à changer un peu, à avoir d'autres choses. Mais moi, c'est cette démarche-là qui m'intéresse. Et je pense qu'on a tout à gagner et que notre démocratie, c'est quelque chose qui doit s'entretenir et où chacun doit prendre parti là-dedans. Voilà, ça, je pense que c'est essentiel.
En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. Y a todo ello yo digo no, y a todo ello yo me resisto, ¿verdad?
We have to aim to change the political systems themselves, because as long as these kind of people are in power, no matter how many people we mobilize on the streets, they will not listen.
La mondialisation, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples.
Le nouveau esclavage, il est là-dedans. La nouvelle colonisation, elle est là-dedans, frère. C'est quand ils nous voient tous nous bagarrer pour acheter leur
mère. Et qui c'est vraiment l'utopie de croire que ceux-ci auront un jour la conscience de penser un peu au bien-être de la société.
L'organisation, ça reste au niveau économique et politique. On ne parle jamais des gens en tant que peuple.
Donc maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a des petits espaces de liberté. Il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs.
C'est un mouvement de mobilisation de
es una nueva lucha, una lucha constante, una lucha transformadora, una lucha renovada que se basaría no en la violencia, sino en la palabra.
Mondialisation invisible.
Esta ley es también, en su concepción, una toma de posición. Es decir, una definición. Esto es hoy, en este lugar, en este tiempo, con esta
historia. Mais la vérité, c'est regarde une seconde, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça avance? Ça avance quand on est ensemble.
Cette jeunesse soit une jeunesse de révolution et non une jeunesse de révolté. Alors, pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains.
Kenny Arcana, entre les mots.
4. Ne jamais juger de l'éthique de la faim et des moyens en dehors du contexte dans lequel se passe l'action.
Dans son livre intitulé « Le livre noir de l'animation socioculturelle », publié chez l'Harmattan en 2005, Marion Peyre écrit « Contrairement à certains pays comme l'Allemagne, où les associations sont financées en tant que telles, en France, elles travaillent pour coller aux dispositifs d'État. Retrouver un militantisme bénévole fondé sur l'imagination autonome des individus associés supposerait de financer le projet imaginé par les associations. Mais après 20 ans de spécialisation technique et sectorielle, ont-elles encore une imagination militante autonome ? À ce point d'institutionnalisation dans les dispositifs publics, de complexité administrative de la recherche de financement, les militants ont disparu et les bénévoles qui acceptent de co-gérer l'association sont en situation de professionnels non salariés auxquels on demande les mêmes compétences qu'un salarié. C'était un extrait du livre noir de l'animation socioculturelle de Marion Peyre, écrit en 2005 et publié chez l'Harmattan.
5. Le souci de la morale de la fin et des moyens augmente avec le nombre des moyens disponibles et vice-versa.
Je suis Fredo, je suis directeur du centre socioculturel CCO des Hauts-de-Mazargues dans le 9e arrondissement.
Vous avez déjà travaillé auparavant dans d'autres...
J'ai travaillé dans d'autres structures autres que CCO, gérées par CCO. CCO qui est donc le Centre Culture Ouvrière. Oui, j'ai travaillé aux AIL, j'ai travaillé dans d'autres structures, les Franca, voilà, dans les mouvements d'éducation populaire.
D'accord. Est-ce qu'on peut encore dire que ça existe, les mouvements d'éducation populaire ?
Ben, c'est un peu la grande question en ce moment, en fait, hein, puisque tout le monde est un petit peu en train de s'interroger sur son projet propre. Nous, au CCO, ça fait partie un peu du travail qui a été amorcé depuis plus d'un an sur vraiment les fondements du projet pédagogique ou institutionnel de la FEDE, quoi.
Et du coup, on parle d'un glissement du projet vers le rendu. Il faut qu'il y ait qu'il soit quantifié, évalué.
Voilà. On s'oriente de plus en plus vers une technique d'animation socioculturelle, quoi. Cet aspect militant.
Même au CCO.
Au CCO, on peut. Disons que le danger reste toujours pareil, quoi. Le CCO, c'est une entreprise qui compte un certain nombre de salariés, hein, 200 à peu près. Qu'il faut que tout le monde puisse vivre correctement. Donc, on répond à des appels d'offres pour avoir un certain nombre de... Comment expliquer ? D'avoir des subventions, hein, de pouvoir vivre financièrement. Donc, ça s'oriente de plus en plus vers une technique et de moins en moins sur un côté militant. Maintenant, charge à toutes les fédés de pouvoir resserrer les boulons, quoi, puisque cet aspect militant, pour nous qui sommes travailleurs sociaux, reste essentiel. On fait pas ça pour les sous, quoi, en gros. Hein, on n'est pas travailleur social pour l'argent.
Et alors, est-ce que les conditions de travail sont viables encore quand on ne veut pas travailler pour l'argent et qu'on a un vrai projet socioculturel ?
Eh bien, cette distance-là est justement l'objectif qui serait légitime, c'est de pouvoir la réduire, quoi. Hein. Vraiment, entre cet aspect militant et cet aspect technicien. Maintenant, on sait très bien que ce secteur-là se professionnalise de plus en plus et je ne suis pas sûr qu'on travaille pour telle ou telle fédération en fonction de ses idées. Maintenant, pratiquement, sur le rendu sur le terrain, ça reste quand même... Le projet institutionnel reste un peu le fond de nos demandes de subventions, de dossiers. On oriente nos idées en fonction de notre projet institutionnel. Dans la pratique, ça reste quand même plus difficile à cerner. On sait que les techniciens sur le terrain, c'est ceux qui sont diplômés en général, hein, ceux qui sont à des postes comme poste B ou directeur ou coordinatrice enfance-famille. Ce sont des gens qui sont généralement diplômés et formés par différentes fédérations.
Et alors vous, personnellement, comment vous vivez ce poste au CCO ?
Au CCO, la petite particularité du CCO, enfin qui est une bonne particularité, c'est que les structures type centres sociaux ou points accueil Rémi ou autres sont situées dans des quartiers pas faciles, on va dire. On est toujours un petit peu, toute l'équipe pédagogique d'un centre social est toujours un petit peu sous pression. Pression du public, pression des financeurs, pression de l'environnement, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer par des techniques, avec toujours des techniques professionnelles qui sont en général tournées autour du management de l'équipe, quoi, hein. On essaye d'être le plus participatif possible et d'avoir le plus de recul possible par rapport à son travail. Ce qui n'est pas facile pour tout le monde, hein, y compris pour moi aussi.
Les années 60, c'était la révolution des sacs à dos, des guitares et des utopies mondialistes. C'est plus pareil maintenant. Maintenant, ça va être la JRQM, la grande révolution des quartiers du monde, des tambourins et des réalisations concrètes. Dans toutes les villes, dans tous les quartiers, des jeunes et des plus vieux se lèvent et prennent leurs affaires en main. Et se mettent à construire leur capitale chez eux, se mettent à construire leur parc. sans plus rien attendre de l'État, des élus ou des professionnels de l'encadrement, qui n'ont plus qu'à venir se placer à notre service avec un marteau et des pointes, s'ils veulent être utiles. Et tous ces quartiers communiquent entre eux par signaux de fumée électronique, à la barbe de tous les intermédiaires parasites, et vont se visiter les uns les autres en circulant sur la ligne. Ce soir, encore, le mouvement a avancé d'un grand pas, avec toute cette rencontre ici, des gens qui viennent de Nice, de Marseille, de Mâcon, de Strasbourg, de Paris, de Bretagne, de Larazet, du Zest, de Lille, de Sète, de partout. Des gens qui ne reçoivent aucun ordre de personne, et qui sont unis par la seule volonté de ne plus jamais se laisser traiter en citoyen de seconde zone. Oui, ce soir, le mouvement a avancé d'un grand pas. Et dans quelques années, quand les médias et les historiens célébreront les débuts de cette révolution, vous pourrez dire « J'y étais !»
C'était le fabuleux troubadour, le discours on the line. Au niveau des subventions, des fonds, des financements, le CCO est à de beaux jours devant eux?
Non,
devant lui.
Pas réellement. Hein. On est toujours en but, forcément, à la restriction budgétaire et... À notre sens, ça ne va pas s'améliorer, quoi, hein, surtout sur les centres sociaux, où ça va être de plus en plus ric-rac.
Il n'y a pas des directions à prendre dans lesquelles vous sauriez que ça marcherait un
c'est
peu mieux.
C'est une décision et une stratégie qui est un petit peu... en ce qui concerne notre action, nous, aux centres sociaux, c'est une stratégie qui est définie un petit peu par l'ensemble des partenaires. Quoi, hein. Si on s'oriente plus sur l'insertion professionnelle ou sur le suivi des jeunes ou sur la prévention de la délinquance, c'est quelque chose qu'on fait communément, quoi. Après, c'est sûr que sur un quartier, il s'est pas passé, il n'y a pas eu de soucis pendant un certain laps de temps, les gens sont plutôt satisfaits, on va dire.
Ça se mesure comme ça?
Entre autres, oui.
C'est une unité de mesure.
Oui, entre autres. Mais toujours dans la même idée de ce qu'on disait précédemment, on se rapproche de plus en plus à des techniques d'entreprise, professionnels, quoi. Je veux dire, au bilan, la fréquentation est un point essentiel, puisque en fonction de notre fréquentation sur un centre aéré ou sur un espace jeune, on aura tant de subventions, quoi, ou de financements. Donc ça fait partie aussi de la gestion du centre. C'est une donnée primordiale, quoi.
6. On aura d'autant plus tendance à évaluer les critères moraux des moyens que la fin est moins importante.
Nous pouvons définir l'éducation populaire par ces quelques mots. L'éducation populaire est le développement des capacités de chacun à comprendre son environnement, à pouvoir s'y situer pour agir et le transformer.
7. Le succès ou l'échec constitue un facteur déterminant de la morale. C'est ce qui fait la différence entre le traître et le héros.
Alors vous avez entendu ce que nous rappelait Frédéric Travers, directeur du Centre social des Hauts-de-Mazargues. Les centres sociaux du CCO se trouvent souvent dans les quartiers pas faciles, défavorisés, abandonnés, c'est comme vous voulez. Alors, allons voir un centre social marseillais, géré lui aussi par le CCO, situé dans un quartier dit « difficile ». C'est le centre social de la Renaude. Il semble être le seul lien pour les habitants de cette cité au monde extérieur. Au bout d'une impasse, l'abandon par les institutions publiques est saisissant. Rachid Slimani, directeur de ce centre social, doit composer un habile projet entre l'urgence de ce quartier, livré à lui-même et à son quotidien, et le cahier des charges que doit remplir le CCO. Rachid Slimani m'a reçu à la Renaude.
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'alerter, en fait. Au-delà de la mission d'animation globale d'un centre social, c'est d'alerter. Donc d'alerter sur les problèmes qui nous semblent graves de santé, par exemple, des familles ici, certaines familles, et de manière générale, sur le cadre de vie, où on se rend compte qu'il y a des risques importants pour la population qui habite, en termes de danger. Donc on alerte, on le signale, on fait remonter à nos partenaires. Après, les problèmes d'environnement, des problèmes d'entretien, les problèmes de scolarité où on se rend compte qu'ici en tout cas ici, de manière marquée, il y a une partie de la population qui ne peut pas, pour laquelle la scolarité est à... Enfin, on parlera de je vais dire discrimination, mais ce n'est pas le terme en fait qui correspond, c'est une exception. C'est-à-dire que là, on se rend compte que les services de l'État, donc l'éducation nationale, acceptent des situations à contre-cœur, je pense, hein, en tout cas c'est mon sentiment, mais ils l'acceptent malgré tout, des situations où on peut accepter que des enfants ne soient pas scolarisés ou très mal scolarisés, avec le résultat que ça produira à long terme.
Vous pouvez décrire le quartier, la cité, on dit oui. La cité.
Oui, oui, le quartier, la cité.
Le centre social où il se place là-dedans.
Ouais, ouais. Quand on arrive pour arriver dans cette cité, en fait, on peut, c'est en général, c'est très difficile de la trouver, même si ouais. On sait lire un plan. C'est difficile de trouver cette cité. Parce qu'elle est... Alors, on parle d'enclavement. C'est le terme utilisé qui l'a décrit. Donc, elle est enclavée, la cité. Alors, enclave, des fois, ça peut être joli, une enclave. Hein, ça peut être au bord de la... Enfin, dans une île, un truc sympa, comme ça. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. Il y a le cimetière qui l'entoure. Il y a un mur qui a été construit... qui est mitoyen de l'université de Saint-Jérôme derrière, c'est-à-dire qui forme les futurs scientifiques, les têtes pensantes de Marseille et de France aussi, puisque c'est un complexe assez intéressant, quoi. C'est bien d'avoir ça à proximité, mais bien sûr personne n'en bénéficie ici, malheureusement. Et ensuite, il y a un terrain vague qui a été aussi grillagé derrière. Et en contrebas donc de la cité, il y a un autre mur qui a été construit, pour éviter les passages dans la cité. Alors c'est pas une cité, on va dire une résidence là, parce que voilà, résidentiel, quartier résidentiel construit récemment, donc l'année dernière, dont le promoteur était Bouygues, et en effet c'est de l'habitat de luxe. C'est ce qu'ils disent, après il faut voir comment ça a été fait, mais en tout cas les gens qui habitent ici, en effet, on leur a fait un mur pour éviter d'être dérangés apparemment par les habitants de cette cité. Et un autre chantier est en cours où il y a également des résidences qui sont en construction. Donc ça, c'est ce qui enferme la cité. Et pour accéder à la cité, donc on utilise ce boulevard qui est mondialement connu, qui est le boulevard Hérodote, auquel tout un tas d'activités se pratiquent, parce que c'est, même s'il paraît ça, mine de rien, il y a quand même un certain nombre d'activités qui se pratiquent sur ce boulevard, et à certains moments de la journée, c'est intéressant d'y passer. Il y a souvent des carcasses de voitures qui se retrouvent là, ou des métaux divers et variés, ou des fois des gens qui, après avoir fait des travaux dans le quartier ou dans les environs, viennent jeter tout un tas de choses de ce type-là. Et des fois, c'est à défaut de ramasser les ordures ménagères, donc qui s'entassent pour des raisons diverses et variées. Hein, chacun a sa part de responsabilité, mais le résultat final, c'est que ça s'entasse et que ça fait des jolis tas parfois, avec des animaux qui se promènent à l'intérieur pour se nourrir, avec des longues queues et un petit museau. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir de manière régulière. Hein. C'est pas tout le temps, mais régulière. Depuis que je suis là, moi, j'ai vu un certain nombre de fois. Ensuite, donc, la cité, elle se décompose. Elle était bâtie sur une pente, sur un terrain en dénivelé. La partie haute, c'est deux groupes de bâtiments qui sont en L, qui font 110 logements. 110 logements, à peu près. Ou peut-être un peu moins, avec des bas d'immeubles qui sont dédiés réservés à usage commercial. Voilà. Donc je dis 110, mais avec réserve. Et en bas, il y avait 40 maisons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Renaude. Et le bas, en contrebas, qui était un ancien bidonville qui a été résorbé dans les années 80, fin 80, où là, on a construit de l'habitat, la ville de Marseille a fait de l'habitat adapté pour les gens qui habitaient donc le bas de cette cité. Des petites maisons individuelles. Voilà, il y avait 40 maisons, dont fait partie le centre social. Parce que dans le centre social, il y a un gardien logé avec une maison, c'est la 40e, c'est la maison 40. Voilà, sur ces 40 maisons, aujourd'hui,